très heureux donc de venir. On avait prévu depuis très longtemps la date, et ça tombe très mal pour moi, mais on a maintenu cette rencontre, et j'en suis très heureux. Et ce sera l'occasion, effectivement, d'expliquer un travail en cours, mais qui s'appuie sur à peu près 25 ans de travaux et réflexions sur ce qu'on peut appeler une pensée économique au Moyen-Âge, qui est peut-être une formule un peu étrange. On n'a pas forcément cette idée du Moyen-Âge comme d'un moment d'origine d'une pensée économique. Et c'est pourtant le cas, et c'est en remontant à cette origine qu'on peut trouver, enfin, que j'essaye de trouver, des arguments critiques contre ce qu'est devenu aujourd'hui la pensée économique. Donc ce sera la dernière partie de ma présentation où j'essaierai de vous montrer, parce que c'était un peu pour moi le but. J'ai commencé des études d'économie et j'ai été tellement choqué par l'aspect, disons, doctrinal, non réflexif du savoir économique, qui applique des modèles, qui a des croyances très fortes qu'on ne discute pas, et ça ne me convenait pas du tout, et je suis passé à l'histoire, et notamment à l'histoire médiévale, pour prendre beaucoup de recul, et donc après une longue maturation, j'essaie de revenir en m'appuyant sur ce que j'ai découvert dans cette période médiévale, pour formuler quelques arguments critiques contre ce qui est devenu aujourd'hui. Je ne dis pas que ce n'est pas l'économie qui est comme un problème, mais c'est le mode de pensée dominant des économistes qui a pour conséquence terrible de remplir totalement notre champ de pensée, le vocabulaire qu'on emploie dans les journaux, à la télévision, spontanément. On va tous utiliser des mots qui sont formatés par un discours très marqué idéologiquement, où on nous explique depuis 40 ans qu'il n'y a pas d'autre façon de penser que celle-là, que le marché va régler tous nos problèmes. Et c'est très compliqué de prendre du recul, et il me semble que le recul médiéval est une bonne mesure. Il faut presque un bon millénaire pour arriver à sortir de cette oppression, pour respirer et voir les choses un peu autrement. Alors, je vais commencer juste par vous expliquer pourquoi on peut dire qu'il y a une pensée économique donc sur la base de ce volume que je fais circuler, avant d'expliquer un peu plus largement comment faire une histoire de longue durée de cette pensée, puis voir quels sont les arguments aujourd'hui qu'on peut amener dans le débat. Parce que c'est ça qui est intéressant, effectivement, comme disait Dan, c'est presque une nécessité vitale pour un médiéviste qui travaille sur des choses très anciennes. On est content, entre nous, de parler de choses anciennes qui peuvent intéresser à titre de curiosité, mais on est plus satisfait quand le savoir qu'on produit en étudiant ces textes anciens peut avoir un impact sur les consciences aujourd'hui. Et simplement faire réfléchir, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit de nouveau, mais juste ouvrir l'esprit. Donc c'est ce qu'on peut appeler une fonction critique de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire a pour but, il me semble, de montrer que les choses ne sont pas nécessairement comme elles sont aujourd'hui. Elles ont pu être autrement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être autres. Et c'est ça, la critique est de montrer qu'il y a autre chose de possible, il y a eu autre chose, et de comprendre que la trajectoire, donc le parcours historique qui mène, ne serait-ce que depuis le XIIIe siècle jusqu'à nous, n'était pas évident, et qu'il y a des bifurcations historiques, des transformations qui ont déterminé les choses, sur lesquels les êtres humains ont eu des choix. Donc on peut réfléchir aussi comme ça à cette histoire non nécessaire. Les choses auraient toujours pu se passer autrement qu'elles ne se sont passées. Alors, remonter au Moyen-Âge pour parler de l'économie, c'est aussi dire qu'il y a un point de départ. Et ça, c'est la première réflexion à avoir, c'est l'économie n'est pas une science naturelle. Il n'y a pas eu toujours partout de l'économie. Alors, on peut dire, effectivement, partout, depuis le néolithique, depuis qu'on cultive, on a des réflexions sur les rendements agricoles, plus ou moins. On a des traités d'agronomie de plus en plus sophistiqués dans l'Antiquité, grecque, romaine. On ne trouve pas de traités économiques. C'est une chose qui n'a pas de sens dans le monde antique. Je ne connais pas très bien le monde chinois, mais je ne l'ai pas repéré non plus. On ne parle pas de traités économiques chinois. On a même de la même façon des traités de gestion domestique, de gestion des domaines, de traités de fiscalité, de comment gérer le royaume, mais on n'a pas ce que nous appelons, ce que nous concevons comme de l'économie. Donc c'est un point intéressant, ça veut dire que c'est un champ intellectuel qui doit être constitué, qui ne va pas de soi. De la même façon, il y a une pensée politique ancienne, vous savez, il y a des traités politiques, là il y a des traités de l'art de la guerre, de l'art de la politique, aussi bien en Chine qu'en Grèce, qu'en Inde, il y a le pouvoir est quelque chose de très identifié. On sait ce que ça veut dire, la politique, le pouvoir, dans beaucoup de civilisations très différentes les unes des autres. Et on peut dire que le pouvoir politique est un phénomène universel. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés ont un pouvoir politique. Il y a des sociétés tribales qui, justement, se définissent par l'absence de pouvoir séparé. Mais on peut dire que le politique est une chose universelle. On peut dire de la même façon que le droit est à peu près universel. De différentes façons, il y a du droit dans presque toutes les sociétés. En revanche, il n'y a pas d'économie partout. C'est-à-dire qu'on ne conceptualise pas un certain type de relations sociales comme étant des relations économiques. Alors typiquement, juste pour vous rappeler quelques grands classiques des sciences sociales, Marcel Mauss, le grand sociologue, anthropologue français, actif dans la première moitié du XXe siècle, a écrit un texte magnifique qui s'appelle « L'essai sur le don » pour montrer que la forme la plus générale des relations sociales qui impliquent des biens dans les sociétés préhistoriques ou pré-étatiques qu'on peut répertorier à travers le monde prennent la forme d'échanges de dons. C'est le sous-titre est la forme archaïque du contrat. Il n'y a pas de contrat d'échange, il y a des dons réciproques, des obligations de donner, de rendre les dons reçus. Et la modalité d'échange est une modalité dans laquelle on ne sépare pas un bien auquel on affecte une valeur qu'on échange pour un certain prix dans une transaction qui est limitée entre deux personnes. On ne va pas acheter un bien et après on n'a plus de relation. Les échanges de biens sont toujours inclus dans des relations sociales beaucoup plus larges. Échanger un bien, c'est entrer en relation avec quelqu'un. Et généralement, c'est une opération collective entre deux groupes, entre plusieurs personnes. Et alors, ça, c'est la théorie de Lévi-Strauss, de dire que les échanges de biens fonctionnent avec les échanges de femmes. Il y a des circulations d'échanges. Mais en tout cas, on est dans des systèmes de pensée et de vie sociale où il n'y a pas, on n'isole pas la transaction économique comme une chose à part. Donc la question qui se pose, justement, c'est à quel moment on peut dire qu'il y a cette opération mentale, qui n'est pas naturelle du tout, de penser que les choses ont une valeur et qu'on peut avoir des transactions, des relations économiques qui se limitent à une relation économique. Quand vous achetez, c'est l'exemple classique donné par Adam Smith, qui est donc considéré habituellement comme le fondateur de la pensée économique moderne, donc un Écossais actif à la fin du XVIIIe siècle, qui dit voilà, ce n'est pas de la bienveillance du boucher que vous attendez la viande, vous avez un intérêt à acheter, à payer la viande, et lui a intérêt à vous la vendre. Et la relation économique, c'est cette relation d'achat qui est distincte, dissociée d'une relation personnelle. Après, on peut dire, mais oui, mais on peut être l'ami du boucher, ça c'est sûr. Et on va souvent chez un boucher qui est aussi un ami. Donc il y a toujours cette relation humaine qui se reconstitue par-dessus. Mais ce que dit Smith, c'est le cœur de ce qui constitue l'économie, c'est des relations entre des individus isolés, autonomes, qui nouent des relations basées sur l'intérêt, sur leur intérêt. Et c'est parce que deux personnes ont intérêt à une transaction qu'il y a une relation économique. Pour dire, c'est ça la base du modèle de pensée. Et c'est uniquement dans un univers mental où on peut penser que la société se constitue sur la base de ces relations individuelles basées sur l'intérêt, qu'on peut imaginer quelque chose comme une représentation économique de la société. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi, donc, comme je vous parle pour essayer d'expliquer, mais si vous avez des questions, des explications à demander en cours de route, n'hésitez pas. Parce que c'est juste pour vous, je voulais juste vous dire là par là que l'économie n'est pas une chose naturelle, elle implique beaucoup de présupposés. Alors, le livre que j'ai écrit, justement, a pour but de montrer, d'exposer historiquement ces présupposés. Et j'ai choisi comme titre cette notion d'occupation, pour dire un mot très intéressant qui a beaucoup de sens différents, mais qui permet justement, qui a l'intérêt de faire comprendre quels sont les présupposés de l'économie. Il n'y a pas d'économie naturelle, donc il n'y a pas... contrairement à ce qu'on lit dans les manuels d'économie, la société, ce n'est pas des individus isolés qui, d'un seul coup, décident de produire des biens et d'échanger leurs biens sur un marché et de créer une société marchande de cette façon-là. Ça ne s'est jamais passé comme ça. On a des travaux d'anthropologues qui montrent que ça ne se passe jamais comme ça. C'est une fable, mais c'est une fable qui est répétée encore dans les manuels d'économie. C'est ça qui est intéressant. C'est un mode de pensée qui implique cet imaginaire d'une société d'individus qui se réunissent pour faire des transactions sur un marché avant toute chose. Or, ce n'est jamais comme ça. Je vous dirai après peut-être pourquoi, d'où vient ce modèle. Ce qu'on voit donc avec le mot d'occupation, on comprend une sorte de stratification des niveaux. Occupatio, donc je parle du latin, là je me situe dans l'univers romain, d'abord de la République puis de l'Empire romain, mais c'est le même mode de pensée, même s'il y a beaucoup de transformations historiques. Et ce mot d'occupation, évidemment, le premier sens que vous avez en tête, c'est un sens militaire. L'occupation, c'est d'abord une occupation militaire, pas forcément d'un pays par une puissance étrangère, ça peut être tout simplement l'occupation d'un territoire neuf. Mais l'occupatio, c'est ça, c'est prendre possession d'un territoire, puis après, et c'est là où les Romains sont très très intéressants, les Romains ont inventé, non pas d'économie, mais ils ont du droit, et ils ont une réflexion juridique très approfondie, très poussée, dont nous sommes les héritiers, le droit utilisé en France dans la plupart des pays occidentaux est un droit qui, par différents cheminements, dérive de ce droit romain. Et donc, en droit romain, l'occupatio est un titre de propriété. Alors, on ne le voit pas, ce n'est pas un mot central dans le vocabulaire, parce que les Romains parlent surtout des modes de transmission de biens qui sont déjà des biens en possession, enfin, qui sont soumis à des droits. Hein, on achète, on vend des choses sur lesquelles quelqu'un a déjà un droit. Et l'occupation, c'est cette strate première, primitive, qu'on ne voit plus. On la voit que dans certains cas où il s'agit de prendre possession de quelque chose qui n'appartient encore à personne. Alors typiquement, l'exemple qui est donné dans la discussion juridique romaine, c'est dans un fleuve, hein, vous imaginez sur la Seine, à la suite d'une crue, d'une transformation du cours du fleuve, émerge une île. Le fleuve, en droit romain, est un bien public, est un espace public, hein, qui n'est pas appropriable. L'eau, en général, n'est pas appropriable. Pour les Romains, on ne peut prendre possession que d'une terre ferme. Émerge une île dans la Seine. À qui appartient-elle? La réponse, elle appartient au premier occupant. C'est celui qui, le premier, va sur l'île, s'installe et dit « j'y suis, j'occupe ». Et donc c'est un droit, donc c'est un reste de cette strate initiale d'occupation. Le premier qui prend possession d'une terre vierge en est l'occupant. Alors ça, enfin, donc, l'exemple de l'île qui apparaît dans le fleuve, c'est vraiment ce qui est donné dans les discussions romaines, c'est une question pratique. Vous imaginez bien que la question s'est posée devant la découverte de terres neuves par les explorateurs européens à partir du XVIe siècle. Donc, c'est sur la base de ce droit romain ancien qu'on a cette vieille tradition, peut-être vous avez encore en tête cette représentation, de le premier explorateur qui arrive quelque part, il plante le drapeau de son pays pour dire, voilà, j'occupe au nom de la France, je prends possession de ce bout d'Antarctique. Voilà. C'est une terre vierge dont je prends possession. Donc c'est cette première strate militaire d'occupation, puis juridique qui donne des droits, et cette occupation permet d'attribuer des droits sur la terre et permet de les échanger. Ce qui veut dire, si on réfléchit bien, qu'il n'y a d'échange possible que d'échange économique possible que dans une société qui est déjà organisée militairement, où il y a une armée qui a pris le contrôle d'un territoire, au sein de laquelle on a divisé la propriété des terres entre différentes personnes qui peuvent après faire des échanges. Je donne un exemple qui est assez intéressant. Quand les Anglais ont voulu coloniser la Nouvelle-Zélande, qui est une des dernières grandes îles, une des dernières grandes terres colonisées, on est dans les années 1830, c'est une compagnie commerciale qui voulait prendre possession pour la baleine, pour l'huile de baleine, les chairs de baleine. Après, ça a été pour faire du mouton, pour exporter en Grande-Bretagne. Et le secrétaire d'État aux colonies de l'époque, en 1838, a un texte très intéressant qui dit « Les Maoris ne sont pas des sauvages qui vivent de la chasse, mais des civilisés qui se sont divisés les terres entre eux. » C'est vrai, exactement la phrase qui est employée pour dire, voilà, on a affaire à une vraie civilisation. La preuve, c'est qu'ils ont un droit parce qu'ils se sont répartis les terres. Ce ne sont pas des chasseurs sauvages qu'on pourrait coloniser. Donc c'est ça le critère. Et les Anglais ont reconnu qu'il y avait un droit légitime et donc il fallait négocier un traité. Après, la question du traité, c'est comment on traduit des notions anglaises de souveraineté en maori. Et c'est un débat qui a duré un siècle et demi avant de définir à quoi ça correspond les droits que les Maoris ont cédés aux Anglais. Et les Maoris continuent encore à protester et à obtenir des réparations de ce qu'ils ont cédé à tort aux Anglais. Voilà. Donc c'est cette idée de répartition militaire, politique, puis juridique qui permet qu'il y ait échange ensuite. Donc c'est ça, ces notions d'occupation. Et quand on pense, nous, à occupation, on a un autre sens qui est le sens mental, enfin, le sens temporel, on est occupé. Vous avez du temps libre pour venir, mais le reste du temps, vous êtes très occupé, comme moi. Nous sommes tous un peu une maladie moderne. Or, ce mot, il est intéressant à voir que pour les Romains, le mot d'être occupé est un mot très négatif. Et alors, je vous invite à lire un très beau texte de Sénèque sur la brièveté de la vie, qui contient une partie très intéressante, une longue tirade contre les gens occupés. Et c'est ce qu'il y a de pire au monde. Ça commence en disant une personne occupée ne peut rien faire de bien. Et être occupé, ça veut dire avoir littéralement des choses étrangères qui vous occupent l'esprit. C'est le contraire d'être libre. Et l'idéal romain, c'est cette liberté de l'esprit, de pouvoir se consacrer aux choses vraiment intéressantes, à l'amitié, au savoir, qui n'est jamais une occupation, c'est toujours un élément lié à la liberté, la discussion philosophique, le savoir, l'observation du monde. Voilà, c'est ça, c'est l'otium, c'est le grand terme romain, le loisir. Qu'est-ce que c'est que le contraire de l'otium? on rajoute une négation devant le mot, et vous avez negotium. Negotium, c'est le négoce. Un négoce, c'est littéralement le fait de ne pas être libre de son temps, d'être occupé. Et comment on dit être occupé en anglais? On dit être busy. Donc c'est le business, c'est exactement ça. Donc cette idée, c'est un renversement complet de l'idéal antique, hein, d'être occupé, et c'est devenu, dans l'histoire occidentale, une... Alors, ce n'est pas forcément positif, mais c'est la dynamique des choses qui fait qu'on est occupé par le négoce ou le business. Et c'est là où, j'en viens au point crucial, le renversement chrétien. Qu'est-ce qui a fait que cette valeur d'occupation est devenue une valeur positive? C'est le monachisme. Les moines. Donc au IVe siècle, hein, le monachisme, donc le mouvement... Donc, qui constitue des monastères dont les principaux au départ sont en Égypte, soit proche d'Alexandrie ou dans la vallée du Nil à différents endroits, mais également en Syrie, en Cappadoce, donc en Turquie actuelle, à différents endroits on a créé. Donc c'est au moment où le christianisme est devenu une religion autorisée, une religion d'État autorisée par Constantin, que le christianisme a pu se développer publiquement dans l'espace public et les chrétiens ont pu former. Alors, c'est compliqué, les influences qui précèdent cette apparition du monachisme, qui n'est pas une chose instantanée dans le christianisme, qui est un peu décalée dans le temps, d'avoir ces installations collectives. Et le point intéressant, c'est dès les premières traces d'organisation et les traces de règles de vie, de modes de vie qu'on a, qui sont de la fin du IIIe siècle, on a différentes règles ou traités sur le mode de vie des moines. Et on voit que le trait crucial, c'est non seulement d'être en permanence donc dans la pauvreté, dans la prière, l'obéissance est secondaire. Il y a des règles. Il n'y a pas de question de l'élection de l'abbé, du rôle supérieur de l'abbé n'est pas une chose marquante dans les premières règles. Par contre, ce qui est crucial, c'est d'être tout le temps occupé à quelque chose. Les premiers moines travaillent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des paniers d'osier, des nattes en osier, ils travaillent l'osier jour et nuit. Donc c'est des récits très très beaux, hein, comme des récits de vie de ces premiers pères du désert, on les appelle les pères du désert égyptiens. Et vous avez toute une série de récits des vies des pères, vraiment admirables. Et vous voyez notamment, j'ai oublié le nom de celui qui travaille jour et nuit et qui s'endort en travaillant. Et donc ils vivent dans des petites... les premières communautés du désert sont dans des cellules, c'est-à-dire des petites cabanes isolées dans le désert. Ils ne se voient pas les uns les autres. Ils se retrouvent simplement le week-end pour prier ensemble, samedi, dimanche, des réunions liturgiques toutes les semaines. C'est un modèle très vivable. On n'est pas en communauté serrée les uns sur les autres. On est heureux de se retrouver pour célébrer. Et dans la semaine, on vit dans l'isolement total en travaillant jour et nuit. Pas jour et nuit. On travaille le plus possible. Donc c'est cette occupation. Et le mot occupation devient, dans le vocabulaire monastique, un mot positif. Le moine doit être occupé. Alors pourquoi? Dans le désert en Égypte, on a peur du démon. On a peur les démons sont partout très présents. Et c'est pour chasser le démon, ne jamais être en repos. Si on est en repos, si on est dans cette situation de otium, c'est là où vraiment c'est un renversement complet, puisque l'otium romain devient l'oisiveté. Vous savez que dans le vocabulaire chrétien, l'oisiveté, c'est pas bien. Le moine ne doit pas être oisif, et pour ne pas être oisif, on doit être occupé. Voilà. Donc il y a un modèle monastique de l'occupation, de l'occupation mentale, l'occupation du temps. Il faut que l'esprit soit tout le temps occupé par Dieu, et pour qu'il soit occupé par Dieu, il faut que les mains soient occupées à travailler. C'est ça l'occupation fondamentale. Et c'est un modèle de vie. Donc si on fait une histoire longue du christianisme, c'est pour ça qu'on a besoin de remonter loin pour comprendre d'où viennent donc notre obsession du travail, notre obsession de faire les choses à temps. Il y a des choses très intéressantes aussi quand on lit bien les règles monastiques et qu'on les compare à nos modes de vie contemporains. La sonnerie, la cloche qui sonne pour appeler à l'heure du repas, par exemple. Et on dit dans certaines règles, si on arrive en retard au repas, on restera dehors. Voilà, dans les écoles, vous avez encore la cloche qui sonne. Ça reste une sonnerie, mais les écoles sont restées, les écoles françaises restent encore aujourd'hui des institutions totalement monastiques. On ne s'en rend plus compte, mais beaucoup d'institutions. L'habitude de faire des réunions où chacun peut dire quelque chose et à la fin c'est le chef qui tranche, hein, ça c'est la réunion capitulaire. Il y a des salles capitulaires et les règles monastiques disent effectivement il y a des moments, alors selon les règles c'est organisé de différentes façons, mais dans chaque communauté il faut qu'il y ait un moment où tout le monde se réunit, le chapitre, on exprime les griefs, on dit ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est l'abbé qui tranche. Voilà. C'est le modèle de la réunion dans laquelle on passe tous un temps considérable pour rien, parce que c'est le chef qui tranche à la fin, mais tout le monde a pu s'exprimer. Voilà. On vit encore dans des modèles totalement monastiques d'organisation du temps, hein, l'emploi du temps, l'idée d'avoir un agenda, de tenir, d'avoir des rendez-vous heure par heure. Toute cette structuration du temps, c'est une chose totalement inconcevable pour des Romains. C'est le contraire, c'est vraiment l'asservissement complet. Or, ce sont les moines qui s'asservissent volontairement à des heures strictes de prière, de repas, d'activité. Hein, l'emploi du temps, tous ces éléments de structuration du temps, d'occupation du temps, sont monastiques d'origine. Voilà. Et c'est ça qui ne disparaît pas, au contraire, et c'est là où on a une fausse image en général de ce qu'a été le poids du monachisme dans l'histoire occidentale. C'est pas que ça a disparu, c'est qu'en fait, le projet de l'Église latine du XIe siècle, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, la grande institution qui se met en place, qui invente l'idée de sacrement, l'idée que pour accéder à Dieu, il faut passer par les sacrements donnés par l'Église. L'Église est un médiateur indispensable entre le fidèle et Dieu, qui n'a pas accès à Dieu autrement que par les sacrements, par l'institution. C'est une Église qui est fondée par des moines, une institution qui est rénovée par des moines, et des moines qui veulent imposer d'abord au clergé des normes de vie monastique. Donc ce sont des moines qui veulent que tous les clercs, les prêtres, vivent dans le célibat. C'est une chose qui a été imposée en Occident au XIe siècle, pas avant, et qui n'a pas été imposée dans le monde grec, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Mais après, assez rapidement, il y a un projet pastoral, donc d'éduquer le peuple chrétien, et de faire en sorte que tous les chrétiens vivent plus ou moins comme des moines, et qu'ils fassent une chose que les moines faisaient depuis très longtemps, qui est de se confesser. De confesser les péchés, donc d'être vraiment soumis sous un régime de contrôle moral par l'institution. C'est plus le moine qui contrôle, l'abbé qui contrôle ses moines, c'est le prêtre séculier qui contrôle ses ouailles. Et quand on pense à la réforme protestante du XVIe siècle comme une grande libération par rapport à cet encadrement très strict, c'est le contraire qui s'est passé. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces normes, ces obligations ont été totalement intériorisées par les fidèles qui sont littéralement devenus leur propre abbé. Ou alors, on considère que l'ensemble de la chrétienté protestante devient un grand monastère, mais ce sont les normes très strictes, la rigueur monastique qui a été intériorisée. C'est ça, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment un élément fondamental de la réforme. Donc juste pour vous dire qu'il y a un des traits qui fait que l'Occident est devenu un univers économique, il y a un élément très fort dans cette notion d'occupation du temps. Mais c'est pas tout évidemment. La question qui se pose pour moi, c'est après de voir comment il y a une réflexion sur l'économie qui apparaît. Donc évidemment, c'est pas simplement une réflexion sur les moines, parce que c'est pas un univers qui travaille beaucoup, mais qui n'échange pas. Il y a une habitude du travail qui vient du monachisme, mais la réflexion sur la morale des échanges est quelque chose de très original qui apparaît justement dans ce monde de l'Église grégorienne. Et qui est lié précisément à cette question de la confession. Donc le livre que j'ai fait circuler, c'est une édition d'un texte que je considère, je pense que personne ne peut me dire le contraire, comme le premier vrai traité économique jamais écrit de l'histoire de l'humanité, qui a été, c'est très fort parce qu'il n'y a pas de pensée économique ailleurs qu'en Occident, et c'est vraiment le premier traité autonome qui essaye de couvrir l'ensemble de ce qu'on pouvait à l'époque considérer comme des questions constituant un domaine qui correspond à ce qu'on appelle l'économie. C'est pas... On n'appelle pas ça économie à l'époque. Donc c'est un texte écrit par c'est un cours donné par un franciscain. Donc Dan a fait référence à ce personnage que je vais vous présenter un peu plus en détail. Pierre de Jean Olivier. Alors il est occitan, il est né près de Béziers, il a vécu entre Narbonne et Montpellier. Il est mort à Narbonne en 1298. Et donc en occitan, son nom serait Peir Joan Oliu. Alors il y a plein de façons de le transposer en français. La forme internationale qu'on a choisie, c'est Pierre de Jean Olivier. Enfin, on garde le latin Olivier, Pierre comme prénom et Jean comme le patronyme, donc le nom du père. C'est Pierre, fils de Jean, de la famille Olivier. Ce qu'on dit juste à l'époque où les noms de famille commencent à se répandre, au XIIIe siècle. Donc c'est un très grand intellectuel. Dan dit, je le compare à Thomas d'Aquin, ils sont au même niveau. J'ai même une fois fait la comparaison dans une équipe de rugby, ce serait le demi de mêlée, demi d'ouverture. Thomas d'Aquin qui fait le demi de mêlée, qui gère vraiment les questions lourdes, qui traite Aristote, et Olivier qui ouvre sur des nouvelles perspectives. Mais il y a vraiment, c'est des gens du même niveau. Olivier vient juste après, il a entendu Thomas d'Aquin, donc il est dominicain, mais quand Olivier était étudiant à Paris à l'université, il a vu Thomas d'Aquin enseignant à l'université, Thomas d'Aquin étant le premier grand théologien qui a assimilé l'éthique d'Aristote, l'éthique à Nicomaque, la politique, la métaphysique d'Aristote, la physique d'Aristote, le traité de l'âme d'Aristote. Donc c'est le premier penseur qui essaye de faire une philosophie aristotélicienne transposée dans le monde chrétien. Alors, Thomas d'Aquin est un génie absolu, c'est vraiment un des plus grands penseurs de l'histoire occidentale, assurément, qui a été canonisé, qui est docteur de l'Église. Olivier est du même niveau, sauf qu'il appartient à un courant dissident franciscain qui a été lourdement condamné. Il est mort en 1298. Pendant 20 ans après sa mort, il y a eu des miracles. Il y avait un pèlerinage sur sa tombe à Narbonne, des miracles sur sa tombe, une grande fête le 14 mars, qui est le jour de son décès. Et c'est quelqu'un qui avait tout pour devenir un saint, mais dont la tombe a été détruite et dont les restes ont été jetés de nuit dans le Rhône à Avignon pour éviter qu'il y ait un culte de ses reliques. Pour vous dire à quel point on a voulu l'effacer de l'histoire, son nom a été effacé. Comme il a une mauvaise réputation, très peu de chercheurs se sont intéressés à lui. Donc on a découvert, avec Alain Bourron, on s'est lancé vraiment ensemble vers 1992 à découvrir vraiment cette œuvre, en disant là on a une œuvre gigantesque, à peu près inexplorée, parce qu'il a mauvaise réputation. Voilà. Parce que jusqu'à cette époque-là, l'histoire de la pensée médiévale était surtout dominée par des, pas forcément des ecclésiastiques, mais disons, si on n'était pas catholique, on n'avait pas beaucoup d'intérêt à aller lire des ouvrages de théologiens. Je me souviens d'avoir encore de regards assez lourds d'amis philosophes, disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est l'intérêt d'aller voir des vieux théologiens, en plus condamnés, en manuscrit, il faut apprendre à lire des manuscrits pour déchiffrer tout ça. Or, ça en vaut vraiment la peine, et c'est une pensée très très riche, très originale, qui ne ressemble à rien, dans le sens où il n'a pas fait école directement, mais donc, ce texte-là a beaucoup circulé. Hein, il a été... Bon, c'est une histoire compliquée. Après sa mort, c'est juste pour vous situer les choses, donc c'est le groupe qu'on appelle les spirituels franciscains, qui, une fois condamnés donc vers 1317, 1318, la scène terrible, c'est quatre de ses frères ont été littéralement brûlés, condamnés à être brûlés à Marseille, condamnés par un inquisiteur franciscain, marseillais, qui connaissait ce groupe. Donc c'est vraiment entre eux qu'ils se sont déchirés, au point de condamner à mort quatre frères qui disaient exactement ceci: le pape n'a pas le droit de nous obliger à faire des choses qui sont contre la conscience que nous avons de ce qu'implique notre vœu. Je précise, c'est l'idée très forte que des franciscains font un vœu pour s'engager face à Dieu directement. Ils s'engagent face au Christ et pas au pape. Et le pape a simplement pour tâche de les encourager, les aider à accomplir leur vœu. Et eux-mêmes savent vraiment à quoi les engage le vœu. Et pour certaines raisons alors compliquées, à un certain moment, ce groupe a décidé de porter des habits courts et difformes parce qu'ils pensaient que c'était l'habit qui ressemblait à l'habit porté par François d'Assise lui-même. On est exactement un siècle après la mort de François d'Assise, et où il y a cette idée qui vient qui arrive d'un texte, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, un texte assez rare mais très intéressant, qui doit venir de frère Léon, qui a été le secrétaire et confesseur de François d'Assise, qui était très jeune, qui a vécu longtemps après François, qui a transmis des souvenirs de François, et cette idée qu'il a un habit en forme de croix, qui est court, qui doit être difforme, etc. Alors que les frères, dans un ordre religieux qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres, tout le monde doit avoir le même habit assez strict pour être reconnaissable. C'est ça la chose qui compte dans la société. Et les habits courts qui ne descendent pas, qui ne couvrent pas les chevilles, sont considérés comme une chose totalement obscène. La dignité de l'habit est d'autant plus grande qu'il est long et qu'il traîne au sol. Les bénédictins ont des habits très longs qui traînent derrière eux. C'est le signe de la richesse. Les franciscains, au contraire, veulent avoir un habit court, mais que ça ne descende même pas au niveau des chevilles est choquant. Voilà, donc c'est sur ce point-là précis, donc c'est un détail absurde, mais les frères disent « ça ne regarde pas le pape. Il n'a pas à nous obliger à faire une chose qui est contraire à ce que nous pensons devoir faire. » Donc c'est vraiment la liberté de conscience, en réalité, ce qui se passe. C'est très, très moderne. Ça a l'air d'être tout à fait archaïque, et en réalité... sous couvert de cette réflexion sur le vœu, les engagements à suivre un vœu librement défini, on a quelque chose de très très moderne qui est exactement cette liberté de conscience. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont été condamnés, brûlés. Et c'est sous l'inspiration d'Olivier, c'est vraiment sa pensée de la liberté humaine, de ce qu'implique la liberté du vœu, etc. Donc c'est un auteur tout à fait révolutionnaire, donc ce n'est pas par hasard qu'il a été condamné, oublié. Et donc ses œuvres ont circulé, donc ses frères condamnés en Languedoc sont passés pour certains en Italie et ont constitué ce qu'on a appelé avec d'autres, ce qu'on appelait le mouvement des fraticelles. Donc si vous avez des souvenirs d'Umberto Eco, Le nom de la rose, c'est exactement ça. C'est Hubertin de Casals, qu'on voit apparaître dans le roman d'Umberto Eco, était un élève et un ami proche d'Olivier qui l'a vraiment défendu. Donc c'est vraiment ce groupe de fraticelles. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est, je peux dire que la bibliothèque du couvent de Narbonne, avec les manuscrits propres d'Olivier, a été conservée, emmenée en Italie, et à la fin, au bout d'un siècle, elle a été confisquée par un autre groupe franciscain qui, lui, n'était pas dissident, qui était dans la ligne générale de l'ordre, qui reprenait des idées venant de ce groupe dissident. C'est ce qu'on appelle l'observance franciscaine. Et ces observants italiens, notamment Bernardin de Sienne, ont eu accès aux œuvres. Et Bernardin, qui lui est un grand prédicateur, qui a été canonisé, dont les œuvres ont été imprimées et réimprimées, a utilisé littéralement 95% de ce traité d'Olivier dans ses propres œuvres. Et donc c'est un texte qui en fait, a été connu, qui a été utilisé, relu, lu et relu, et connu au XXe siècle comme étant de Bernardin, sauf que ce n'est pas un grand prédicateur siennois, donc... dans la riche Toscane de la Renaissance. C'est un pauvre franciscain de Narbonne à la fin du XIIIe siècle qui a conçu ces idées. Donc j'en viens maintenant au cœur de... Après, Dan, tu me feras signe pour me dire si j'ai... quand il faudra m'arrêter. Mais je présente rapidement les idées principales pour vous montrer comment de ces idées, on a des éléments intéressants de critique de la pensée. Enfin, on peut tirer quelque chose d'intéressant pour réfléchir à ce que pourrait être une autre pensée économique aujourd'hui. Donc le point fascinant, c'est qu'on est... à Narbonne, une ville moyenne, hein, c'est pas une petite ville, c'est petit par rapport, enfin, un peu plus petit que Rouen, pas beaucoup plus petit que Rouen, mais inférieur à Rouen en taille et en importance, mais disons du même niveau comme capitale régionale, environ 30 000 habitants, peut-être un petit peu moins, ville marchande, industrielle, enfin industrieuse, où on produit du textile qui est exporté vers l'Espagne, notamment, mais ville dans le réseau méditerranéen, du commerce méditerranéen, donc qui pratique des formes contractuelles, des formes d'échange assez sophistiquées, comme on en a en Italie. Hein, ils sont en contact avec, dans la ville de Narbonne, comme à Montpellier ou à Marseille, il y a des Génois, des Pisans. Et donc, c'est les mêmes formes de contrats. En fait, donc, du coup, c'est les mêmes formes de pensée. Il n'y a pas de, c'est pas parce qu'on est à Narbonne plutôt qu'à Pise qu'on est moins informé sur comment fonctionne ce commerce. Donc, première chose. Et une ville sans université où l'enseignant du couvent franciscain se trouve être, quand c'est un grand intellectuel en charge de l'enseignement, soumis à des demandes qui viennent d'un grand public. Et Olivier lui-même avait une sorte de volonté de transmettre au-delà des murs du couvent. Il adresse des textes en vernaculaire, écrit en vernaculaire ou traduit en vernaculaire pour la bourgeoisie locale, des textes de spiritualité, hein, des très, très jolis textes. Alors, lui a aussi une pensée de l'apocalypse, hein, il pense qu'il y aura bientôt une crise apocalyptique, que la richesse de l'Église est le signe que ça ne va pas du tout et que la situation est tellement explosive qu'il y aura une guerre apocalyptique et après la chute de l'Antéchrist, enfin le monde vivra en harmonie pendant 700 ans à peu près jusqu'à la fin des temps. Il calcule une fin des temps pour le deuxième quart du XXIe siècle, donc ça se rapproche pour nous, mais lui voit une crise très prochaine, parce que l'Église, enfin, les inégalités sont trop fortes, même au sein de l'Église, donc une pensée sociale aussi assez intéressante. Mais c'est pas ça, donc c'est bien cette question-là qu'il s'intéresse aussi aux laïcs, mais il est soumis à des demandes de la part des confesseurs, et notamment donc, les confesseurs qui s'occupent de la conscience des marchands, qui ont des questions très pratiques sur si on doit confesser chaque année, hein, parce que la confession est annuelle, chaque année on doit faire un bilan avec les marchands, c'est après le bilan comptable, on fait le bilan avec Dieu, qu'est-ce que vous avez fait comme contrat, quels sont les contrats justes, injustes, ils ont besoin de réponses pratiques. Et donc c'est pour répondre à une série de demandes qui lui ont été adressées, on peut reconstituer comment, qu'il donne ce cours, donc qui a été pris en note par un étudiant et à peine revu par lui, donc c'est pas un texte, c'est pas un traité bien écrit, c'est vraiment des cours. Mais la chose qui est assez fabuleuse à observer, c'est dans l'histoire de la pensée occidentale, la première fois que quelqu'un pose la question, qu'est-ce que la valeur ? Voilà, c'est juste un point tellement important, et c'est assez étrange que ce n'ait pas été souligné davantage, le mot valeur, en latin valor, n'est pas du tout un mot de latin classique. Il y a pas, c'est un mot qui a été alors... une histoire un peu compliquée qui a été inventée par des Visigoths dans un autre sens, mais disons en gros l'idée de la valeur des personnes, des biens, est une notion qui se répand en France, en Angleterre, vers la fin du XIe siècle. Bon, enfin, même la première occurrence est à Barcelone en fait. Hein. Donc c'est de la Catalogne jusqu'à York, on a vraiment, c'est tout l'Occident qui utilise ce mot sous différentes formes en vernaculaire. En ancien français, on dit value, hein, c'est le mot qui est resté en anglais, parce que vous savez que la moitié de l'anglais est de l'ancien français, donc value, c'est du français, dans l'ancien français. Valeur est une recréation sur la base du latin valor. Voilà. Mais donc c'est un mot qui se répand assez largement, qui est présent dans les échanges. Hein, donc les villes médiévales sont remplies de marchés sur lesquels on, on vend et on achète. Et de façon très intéressante, c'est le premier auteur qui a eu entre les mains l'éthique à Nicomaque d'Aristote, traduite en latin. On est là à Cologne en 1250 avec Albert le Grand, maître de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin est son assistant, donc il est dans la salle pendant les cours. Et Albert le Grand est le premier à faire un commentaire de l'éthique à Nicomaque et notamment d'un fameux passage du livre 5 de l'éthique. Alors pour ceux parmi vous qui ont été marxistes dans leur jeunesse, c'est un texte central pour Marx aussi. Hein, c'est le seul texte classique, c'est le seul texte de philosophie avant le XVIIIe siècle, hein, si on accepte la scolastique, où on parle vraiment de la question de l'échange et sur la base duquel Marx a essayé d'élaborer une théorie donc sur le rapport entre deux producteurs, entre un cordonnier et un architecte. Je ne rentre pas dans le détail de ce passage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte incompréhensible. Hein, quand il est traduit mot à mot de grec en latin, il est incompréhensible par un intellectuel de très haut niveau comme Albert le Grand. Il ne comprend pas, et le commentaire transforme le texte. Pour donner un sens au texte, il doit le transformer complètement, de façon assez significative, et il le fait en ajoutant le mot « valeur ». Hein, Aristote veut dire... Encore aujourd'hui, les chercheurs ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'Aristote voulait vraiment dire. Il y a encore des débats de fond entre philosophes pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire quand il parle de ramener à l'égalité un cordonnier et un architecte. C'est très compliqué. Albert Legrand a une réponse très simple. Pour que l'échange soit juste, il faut que la valeur des choses soit égale. Ça nous paraît banal, évident, mais ce n'était pas du tout comme ça qu'Aristote posait le problème. Et personne dans l'Antiquité n'a posé le problème de l'échange est juste quand la valeur des choses est égale. Après, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la valeur et comment la valeur peut être égale? Et c'est là où Olivier reprend une question. Il a Thomas d'Aquin sous les yeux. Thomas d'Aquin pose la question, est-ce qu'il est licite de vendre un bien plus cher qu'il ne vaut ou de l'acheter moins cher? Et Thomas d'Aquin dit non, c'est pas bien. Bon, c'est banal. Et Olivier pose la même question et dit, avant de répondre, il faut se demander qu'est-ce que c'est que la valeur des choses. Voilà, c'est ça le point de départ absolu de la pensée, enfin pour moi, d'une pensée économique, c'est quand quelqu'un s'arrête pour dire qu'est-ce que c'est que la valeur, comment mesure-t-on la valeur des choses. Et il dit, alors il y a plusieurs éléments, d'abord il faut distinguer la valeur naturelle, la dignité naturelle des êtres de la valeur d'usage des choses. Hein, la valeur dont on parle, c'est qu'une valeur... Alors, par rapport au marxiste, c'est valeur d'usage et d'échange, pour lui, c'est la même chose. C'est la valeur d'échange, c'est la valeur des choses qu'on échange en fonction de leur usage. Bon, je passe sur ce détail qui est un peu compliqué. En tout cas, il y a une seule valeur, qui est la valeur des choses qu'on échange en vue d'un usage, donc qui ont une valeur en vue de leur utilité. Donc, premier critère, c'est l'utilité. Deuxième critère, c'est la rareté, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de choses disponibles. En fait, il dit même, c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est Bernardin de Sienne, on a le manuscrit où Bernardin de Sienne annote pour lui-même, et il marque utilitas, raritas, et donc il écrit vraiment ces concepts, mais l'argument complet d'Olivier est beaucoup plus intéressant, il dit, c'est en fonction de la plus ou moins grande difficulté d'accéder à ces choses. La question est plus complexe que simplement une rareté absolue, c'est vraiment... une question pratique aussi de disponibilité, d'accès aux choses, aux biens. Et troisième élément, qui est assez fascinant pour nous, c'est selon le plus ou moins grand agrément que telle personne a à avoir tel bien. Et que chacun, en fait, il y a des préférences individuelles, pour traduire en termes modernes, il a employé une périphrase, c'est un peu plus compliqué, mais ça veut dire que chacun a une préférence différente et que telle personne préfère tel cheval à tel autre. Donc il y a un élément subjectif dans le fait de vouloir une chose plus qu'une autre. Et c'est en fonction de ces circonstances-là qu'on pourra penser le prix juste ou injuste. Mais il ajoute encore un élément, et là, je signale au passage, les mots de utilité, rareté, préférence individuelle sont les trois catégories principales utilisées encore aujourd'hui en microéconomie pour penser l'échange, le marché. Et ces mots sont Narbonne 293. Donc, voilà, sur l'analyse, au sens strict, l'analyse de qu'est-ce que c'est qu'un marché, on a quelque chose, marché simplement, pas au sens marché abstrait des choses, c'est marché concret, comment les gens vendent, achètent, comment se forme le prix quand il y a une situation concrète d'échange. On a vraiment une analyse assez fine, et encore plus fine parce qu'il ajoute cet élément, le juste prix des choses ne peut jamais être fixé de manière... Alors il dit, le mot latin est punctualitaire, ça veut dire fixé en un point, ça veut dire en fait fixé en un point mathématique, c'est un point indivisible. Et il dit au contraire, c'est une latitudo, c'est une marge, une grandeur. Le juste prix n'est pas On ne peut jamais dire que le prix de cette chaise est 12 euros. Ça ne veut rien dire. C'est tout le temps en fonction des circonstances qui font qu'il y a des gens qui veulent, qui ne la veulent pas. Elle est plus ou moins belle. Le prix sera variable, mais si c'est en moins de 2 euros, ça sera vraiment pas injuste. Si c'est plus que 20, ça sera vraiment excessif. Donc il y a des marges de fluctuation qu'on peut définir pour les biens. Ce n'est pas jamais des prix absolus. C'est toujours... En fait, il veut dire par là, je traduis en termes modernes, la valeur est un phénomène social. Donc la valeur est un phénomène, oui ? Oui, ah ben voilà, c'est exactement ça. Donc la théorie marginaliste, en gros, est inventée en 1293. Elle a été réinventée longtemps après. Mais Karl Menger, qui est un des grands penseurs de ce courant marginaliste, lisait Aristote. Alors je ne sais pas s'il a lu Aristote avec les commentaires latins, mais bien exactement, c'est la microéconomie pure. Alors après je vais vous dire pourquoi, mais juste je termine sur ce passage, que c'est que le début, parce qu'après plein de choses dans le texte sont fascinantes. Sur ce, il ajoute, donc c'est toujours une marge, une grandeur. Donc c'est quelque chose qui n'est connaissable que par les humains. Dieu n'est pas impliqué dans ces opérations. En fait, quand on lit le traité, ce qui est très intéressant à voir, le message général théologique est de dire: Dieu n'est pas concerné. Il y a seulement la question de l'usure. Donc c'est l'interdiction d'un certain type de prêt à intérêt qui est condamné, que la loi divine condamne. Mais tout ce qui est la justice dans les échanges, c'est une question de justice civile. Et il dit, ce sont les communautés humaines, donc ça veut dire vraiment les villes. Et lui, en faisant l'édition, j'ai trouvé vraiment des rapprochements très précis entre ce qu'il dit et les statuts de la ville de Narbonne ou de Montpellier. Il y a des règles qui sont fixées, et il décrit quelque chose qui est conforme, et il dit « Dieu veut que les communautés humaines soient libres de fixer leurs normes de justice, parce qu'il faut des règles politiques pour que le marché soit juste. » C'est ça le message de fond, qui est très fascinant à observer, et qui en fait un texte extrêmement... Enfin, quand on le lit au premier coup d'œil, il semble extrêmement moderne. Jacques Le Goff disait que c'est un texte bizarre. Donc, en fait, tout mon travail, c'était d'expliquer à Le Goff que ce n'était pas si bizarre que ça. Et à la fin, il avait pensé d'accepter mon explication. Voilà. Donc, juste un texte fascinant. Un autre point, simplement, pour vous montrer à quel point c'est riche. Il sait que donc, l'usure, qu'on appelle l'usure, juste simplifié, c'est l'interdiction de prendre une rémunération sur un prêt de consommation. Ce n'est pas toutes formes de prêts, c'est les prêts de nourriture, de grains, d'huile, de vin, des choses qui se consomment dans leur usage. C'est un type de prêt, c'est un contrat de droit romain qu'on appelle le mutuum. Et en droit romain, c'est un prêt qui doit être gratuit, c'est-à-dire qu'il faut rendre la même chose que ce qui a été, la même quantité que ce qui a été donné. Si je vous prête, si vous avez besoin pour recevoir d'une bouteille de vin, je vous prête une bouteille de vin, vous me rendrez une bouteille de vin d'un vin équivalent. Voilà. Pas non plus de la piquette, mais sinon ça serait injuste. Mais en gros, c'est ça, c'est la même chose, la même quantité. Or, ça implique aussi l'argent, puisque l'argent est supposé se consommer dans son usage. Hein, quand on a le mot consommation en tête, le concept de consommation qu'on a, le sens réel du mot, alors le mot apparaît à la fin du XVIIe siècle chez Pierre de Bois-Guilbert, mais c'est un mot qui veut dire la dépense d'argent. Ce n'est pas le fait de consommer un objet pour... c'est le fait qu'on consomme de l'argent pour l'acheter. C'est ça le mot précis de consommation. Et la consommation, en réalité, dans la première pensée, ça c'est bien plus tard, c'est ce qui est dépensé. Mais donc l'argent se dépense. Or, Olivier dit, mais oui, mais il n'y a pas que ça comme usage de l'argent, il y a aussi un usage de l'argent où l'argent est employé comme capital. Et il emploie le mot capital, qui est un mot assez courant à l'époque, en Méditerranée, pour décrire précisément des contrats où, alors qu'il dit c'est un contrat qui se fait souvent entre marchands, mais il n'y a pas que des marchands qui le font, c'est où on confie une somme d'argent ou des marchandises à quelqu'un, à un marchand qui va faire du commerce à distance. Soit il va aller au fort de Champagne, ou à Alexandrie, ou à Constantinople, pour vendre quelque chose et ramener. Et si vous avez investi une somme, vous partagez les risques et vous partagez le profit. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'opération, on fait les comptes et celui qui a investi aura une part du profit qui a été fait par le marchand. Et si le marchand ne fait pas de profit, ben il aura perdu. Il aura soit ce qui a été restitué, soit si le marchand fait vraiment un déficit, il y aura une perte. Hein, c'est le principe. Il y a un risque. Alors le mot risque est aussi un mot médiéval. C'est un mot emprunté à l'arabe qui est utilisé dans ce commerce méditerranéen à partir des années 1160 à peu près, 1150-1160, d'abord par les Pisans, mais ça se répand très vite dans tout le bassin méditerranéen occidental. Donc il y a des contrats avec du capital, avec du risque. Et Olivier, le théologien, au courant de ce qui se passe, dit, ben voilà, il y a une forme d'échange où on investit un capital et où le capital est destiné à produire, alors, en latin, c'est « valor superadjunctus », donc une valeur surajoutée. Donc, si on traduit en français moderne, on dit c'est une plus-value. Donc on a une théorie du capital et de la plus-value chez un auteur du XIIIe siècle. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout ce que dit Marx, hein, c'est très différent. C'est uniquement dans le cas du commerce, hein, c'est pas une exploitation du travail productif, c'est uniquement dans le commerce. Mais on a déjà des concepts très clairs, étonnamment clairs, sur des processus fondamentaux de la vie économique à cette époque-là, de la part de quelqu'un qui dit « c'est pas bien ou mal, c'est une question sociale qui doit être traitée socialement par des règles de justice. Et Dieu n'est pas concerné. » Peut-être que je vais finir, je vais conclure pour qu'on puisse discuter, ou est-ce qu'il y a combien de temps ? Oui, non, mais après, ça peut partir dans plein de sens. Mais donc, je vais juste conclure sur un point, sur deux points, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui. Donc, effectivement, des historiens de la pensée économique ont remarqué qu'il y avait une parenté entre cette pensée scolastique et la pensée marginaliste. En fait, il s'agit précisément de Joseph Schumpeter, qui est le grand historien de la pensée économique, théoricien aussi du cycle économique d'entreprise, de la fameuse théorie de la destruction créative. Bon, mais il a aussi écrit, donc c'est un homme très intéressant qui a été un Autrichien émigré aux États-Unis, qui a eu des responsabilités, qui très jeune a été ministre des Finances en Autriche juste après la Première Guerre mondiale en situation de crise, donc il sait de quoi il s'agit, c'est pas un théoricien abstrait, c'est quelqu'un qui a un sens du concret, un sens de l'histoire, c'est un des rares économistes qui pense que l'économie est une science historique, et donc pour cette raison il s'est intéressé à l'histoire de la pensée économique et il a lu beaucoup de textes. Alors à l'époque on ne connaissait pas encore le traité d'Olivier, mais il a lu Bernardin de Sienne. Donc il est au courant et il connaît ses textes, il connaît d'autres, et il comprend que les scolastiques sont très intéressants, et il dit littéralement c'est le groupe qui a été le plus proche de fonder une science économique, il dit en gros ça aurait évité bien des erreurs et des inconvénients si on avait fondé la science économique sur la scolastique. Alors, il veut dire par là, si on aurait pu passer directement des scolastiques aux marginalistes, en évitant toutes les théories de la valeur du 18e, 19e siècle, hein, en évitant Ricardo. Adam Smith, Ricardo, pour lui, c'est une impasse. Ça aurait été beaucoup plus simple de passer des scolastiques. Donc, vision très moderne de cette... qui est intéressante, qui est juste sur certains points, mais qui oublie ce qui fait l'intérêt historique de ces textes. Et qu'est-ce qui fait l'intérêt pour moi du traité ? Donc, si on le lit dans le détail, il y a beaucoup d'autres éléments que je n'ai pas le temps de présenter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne... Il montre qu'on peut avoir une pensée assez sophistiquée des échanges. On peut trouver des concepts modernes, déduire des concepts modernes en ayant à l'esprit une grille de référence tout à fait différente de ce qui a été celle de l'économie moderne, une vision de l'être humain qui n'est pas uniquement fondée sur l'intérêt. Et dans sa vision, et donc c'est ça qui est très riche, il suppose des êtres humains qui ont plusieurs caractéristiques, qui sont alors beaucoup plus réalistes en termes de, si on veut avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'être humain, aucun être humain ne peut être strictement guidé par l'intérêt, ça n'existe pas, c'est une fiction, on essaye de coller à cette fiction et ça nous détruit, ça nous ruine le moral, mais on sait que l'être humain a des tendances altruistes, que l'être humain a un sens de la justice. Alors, donc, je résume, Olivier dit clairement à certains endroits, les êtres humains ont un sens de la justice, donc les êtres dans un contrat d'échange. Ce qui est intéressant dans un contrat pour quelqu'un qui a une pensée très forte de la liberté, comme je vous l'ai dit à propos du vœu, il a la même idée de la liberté dans le contrat. Donc si le vœu implique une liberté de faire un vœu et de conserver une liberté d'interprétation du vœu, ça veut dire aussi que les êtres qui rentrent dans des contrats sont libres de nouer des contrats, de négocier eux-mêmes leurs contrats. Mais ça veut dire que ces gens qui sont libres ont aussi un sens moral, ils ont un sens de la justice, et donc ils ne veulent pas... En fait, il dit son vrai argument contre la question de l'excès du juste prix, de vendre beaucoup trop cher un bien ou de chercher à l'acheter vraiment peu cher, la vraie limite, c'est que les êtres humains ont un sens de la justice et ils ne veulent pas un prix absolument injuste. Personne n'est parfait, mais tout le monde a un sens des limites de ce qui est décent ou indécent. En gros, c'est ça ce qu'il veut dire. Il y a aussi un sens naturel de compassion pour les faibles. On n'abuse pas de la faiblesse des autres. En situation de faiblesse, quand quelqu'un meurt de soif et qu'il a besoin d'un verre d'eau, on lui donne un verre d'eau sans lui faire payer l'utilité marginale du verre d'eau. Le verre d'eau lui sauve la vie, on ne va pas le réduire en esclavage pour le prix d'un verre d'eau. Par humanité, on lui donne un verre d'eau. Ce n'est pas de la charité chrétienne. Le mot qu'il emploie, c'est pietas, qui veut vraiment dire un sentiment naturel de compassion. Ce n'est pas du tout religieux, c'est une chose universelle, humaine. Et j'oubliais. Et après, bien sûr, on a des individus qui vivent dans des communautés politiques et qui ont un sens du bien commun. Voilà. Et qui ne font pas passer leur intérêt privé au détriment du bien commun. Donc ces trois dimensions qui sont des choses qui ne sont pas totalement absurdes aujourd'hui, mais qu'on peut tout à fait articuler à un discours économique cohérent. Donc je pense que là, on a déjà une première utilité de revenir à cette pensée pour dire que ce n'est pas l'intérêt qui fonde la pensée économique, ce n'est pas vrai. C'est la question de la liberté, la question du contrat. Le traité, ce n'est pas le traité des contrats, c'est le traité de ces relations volontaires entre individus qui sont pas seulement guidées, qui ont certes des intérêts. Si on n'avait pas d'intérêt, on ne ferait pas de contrat. On rentre dans un contrat parce qu'on a envie. On a envie d'obtenir quelque chose et que l'autre a envie de vendre, et qu'il y a deux intérêts concordants qui font qu'il y a contrat. Donc certes, l'élément de l'intérêt est présent, mais ce n'est pas la seule chose qui détermine la transaction. Donc premier point. Mais on a aussi, donc, pour passer dans un autre registre, pas seulement ces dimensions anthropologiques plus riches qui enrichiraient le discours économique, mais on a aussi donc, cet élément épistémologique de la fluctuation, de la latitude, la variabilité du prix. Parce que les gens qui travaillent aujourd'hui sur les marchés, qui observent comment fonctionnent réellement des marchés, marchés financiers, savent très bien qu'il n'y a jamais un prix. Il y a toujours une fourchette. C'est assez extraordinaire de penser que, on dit le spread sur les marchés financiers, il y a toujours une fourchette de prix, il n'y a jamais un prix fixe. Le prix de référence, c'est le haut ou le bas de la fourchette, mais c'est, en réalité, on sait très bien que sur un marché, à un moment donné, il n'y a jamais un juste prix. Il y a toujours une marge, et les transactions sont dans cette marge. Ça bouge tout le temps. C'est assez intéressant qu'un théologien a trouvé que le juste prix ne pouvait être concevable que dans une marge. Or, il se trouve que le traité a été lu donc, à travers Bernardin de Sienne, puis Antonin de Florence, archevêque dominicain de Florence, a lu Bernardin, a recopié les mêmes passages, a aussi été publié, a aussi été lu, commenté. Donc c'est vraiment des textes. On a 6 manuscrits de ce traité, ce qui est déjà pas mal pour un texte médiéval, mais des quantités impressionnantes de versions reformulées, imprimées, qui ont été lues et relues par beaucoup de monde. Et on trouve des gens qui reprennent ces idées et qui les discutent. Donc sur cette question de le juste prix n'est jamais fixé en un point mathématique, un théologien allemand en 1500 à Paris, à l'Université de Paris, fait un très grand traité sur les contrats, donc il utilise ces documents, et il se pose la question au milieu, est-ce que Dieu, par une révélation particulière, pourrait révéler à quelqu'un le juste prix? Alors quand on pose la question, est-ce que Dieu peut quelque chose? La réponse est forcément oui, Dieu peut tout. C'est un peu un des pièges de la théologie, c'est qu'on te pose ces questions, ça ouvre des brèches et ça peut faire glisser dans des directions qui ne sont pas forcément très intéressantes, ce qui a été le cas. Parce qu'après, on a un Espagnol au XVIe siècle qui pose la question, mais est-ce que Dieu lui-même connaît le juste prix des choses? C'est assez intéressant. Mais ce qui est totalement absurde pour Olivier, vous avez quelqu'un qui a une pensée qui dit, non, mais c'est une affaire humaine, sociale, Dieu n'est pas concerné, Dieu n'a pas d'avis sur la question. Ça fait partie des, théologiquement, c'est très fort, c'est de dire ça fait partie des choses que Dieu laisse aux hommes comme domaine où ils doivent se décider eux-mêmes. Ils n'ont pas à suivre une règle stricte, ils sont libres. Et on a un théologien qui demande, est-ce que Dieu connaît le vrai prix? Ce qui forcément veut dire, est-ce qu'il y a un prix absolu qui serait la référence? Et si on s'en écarte, plus on s'en écarte, moins on est dans le droit chemin. Et on est obligé de dire oui. Et donc c'est Juan de Lugo qui dit « Seul Dieu connaît le prix mathématique des choses ». Or, si vous regardez ce que font, ce sera ma conclusion, ce que font aujourd'hui les économistes, quel est l'élément principal du travail des économistes? C'est de faire des modèles, faire des modélisations. Les économistes aujourd'hui ne sont pas très schumpeteriens dans l'ensemble, ils sont plutôt dans une école néoclassique, qu'on appelle, qui a comme idée que la vraie description économique serait de faire un modèle global des échanges à un instant donné, ce qu'on appelle l'équilibre. Et alors même s'il y a plus, la théorie de l'équilibre général a été très sophistiquée, on n'y travaille plus beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose à apporter, mais c'est le cadre de référence de tous les modèles économiques, c'est à l'intérieur d'une théorie générale de l'équilibre. L'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre, ça veut dire qu'il y a à un instant donné un juste prix pour tous les biens. qui est le prix optimal, le meilleur prix possible pour la société de tous les biens. Donc si on a lu Olivier, si on a lu la transformation par Lugo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économiste aujourd'hui occupe un point de vue sur la société qui est le point de vue de Dieu. C'est-à-dire que l'économie fait strictement une théologie. L'économie décrit le monde du point de vue de Dieu. Et si on dit il y a un juste prix optimal pour toutes les choses à un moment T, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'histoire. On sort de l'histoire, on a le point de vue de Dieu sur le monde et Dieu est dans l'éternité et regarde de très loin le monde et peut découper des instants. L'instant est quelque chose qui est impensable, ça n'existe pas l'instant. Le temps est quelque chose qui coule, c'est un flux. L'instant, c'est une vue de l'esprit de découper un instant dans le temps. Or, c'est ce que font les économistes de pensée. On peut avoir des visions instantanées de l'équilibre. Et donc, ils font strictement de la théologie. Donc, je vous ai démontré ce soir que l'économie contemporaine d'origine néoclassique est une théologie qui s'ignore, mais qui fonctionne comme une théologie. Ce qui explique beaucoup de choses dans le comportement des économistes, qui se sentent un peu supérieurs aux autres. C'est mesuré. Il y a des travaux de sociologie très intéressants qui montrent que les économistes sont tendanciellement mieux payés que les autres, que les historiens ou les sociologues, c'est vérifié, qu'ils ont tendance à ne pas citer les autres disciplines. Les économistes ne lisent que des économistes, ne se citent qu'entre eux, ils ne vont jamais lire les autres. Alors, nous, on fait l'effort de lire, enfin moi j'ai fait l'effort, mais bon, on se cite entre sciences sociales. Non, eux, ils sont au-dessus. Et ils ont une supériorité qui vient du fait que leur savoir est un savoir divin. Voilà, donc je pense qu'il est utile pour critiquer un peu cette position de ce piédestal. Après, on dit non, mais on est très humble. Mais... Non, non, ils ont une supériorité intrinsèque qui leur font regarder le monde de haut et qui rend impossible la discussion parce que dès qu'on veut discuter, ça, on remet en cause des postulats qui ne sont pas discutables. Il y a une série d'axiomes qui fonctionnent comme des dogmes religieux avec lesquels ne pas discuter. Donc, voilà. Donc pour faire tomber un peu la science économique de son piédestal et réclamer qu'elle soit plus une science historique des transformations du monde dans le temps, il est utile de faire de l'histoire médiévale. Voilà, donc je m'arrêtais ici, puis je vais discuter.